Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Très content de vous retrouver. Épisode un peu plus tardif qu'à l'habitude, Nico et moi. On était pas mal sur la route dans les dernières semaines, dans les derniers jours finalement. Donc, ça a été un peu plus compliqué de coordonner nos horaires. Je commence avec toi, Nico. Comment te portes-tu? Est-ce que tes orteils sont dégelés de ton parcours à Val-Saint-Côme?
Ça commence tranquillement, mais messieurs, si vous voyez des cernes sous mes yeux, c'est parce que l'Omnium d'Australie, on a beau dire que c'est le premier puis que c'est enivrant, mais bon Dieu que pour les Nord-Américains, c'est pas simple à suivre.
Non, c'est le matin ou très tard le soir. Là. Si on est pas si mal, on peut déjeuner en regardant.
Oui, c'est ça, exact.
Et je connais la tradition mimosa et déjeuner de Hugues. Est-ce que tu t'en es permis quelques-uns pendant l'Omnium d'Australie jusqu'à date ou pas encore, comme on dit?
Je fais un petit peu attention à l'alcool dans mes débuts de journée en ce moment, mais j'adore moi aussi m'endormir avec le tennis et me réveiller avec le tennis et me dire, mon Dieu, il joue encore ce matin. On est servi avec des sessions de jour qui se sont un peu étirées et des sessions de nuit, évidemment, qu'on voit le matin ici qui nous fascine. Mais oui, c'est un horaire particulier en Australie, mais j'aime bien, moi, de finir mes journées, de les commencer avec le tennis comme ça.
Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Vous pourrez trouver notre podcast là où vous l'avez trouvé dans les 4 dernières années, mais je vous rappelle qu'on fait un transfert très prochainement sur les plateformes de C23 à la suite de notre entente avec Cogeco. Et on en est particulièrement fiers. Hugues, peut-être revenir là, sur cette entente qu'on a annoncée finalement la semaine passée et qu'on continuera de publiciser. Là.
Ben oui, ça poursuit pour nous la progression vers le plus grand public possible pour ce podcast qui est en croissance année après année. On sait qu'on commence notre 5e saison. Bien content de rejoindre la famille des podcasts de Cogeco qui fonctionnent très bien, qui sont des références dans leur domaine aussi. Donc voilà, ça devrait être en ligne sur C23 dans les prochaines journées. Mais effectivement, les gens pourront toujours nous trouver sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Amazon Music, donc toujours accessible. Mais on sera hébergé sur les plateformes de Cogeco. Et on aurait des présences dans différents segments d'émissions aussi avec des extraits du podcast pour que le plus de gens, encore une fois, possible puissent nous suivre. On est le podcast qui est là toute l'année. C'est au-delà de 50 productions par année. Donc si vous voulez être sur le beat du tennis canadien et du tennis mondial, c'est avec Sur la ligne qu'il faut se coller. Donc, on se relève toutes les semaines cette année.
Ben écoute, comme tu le dis si bien, on a une régularité assez impressionnante. Là. Pas beaucoup de monde qui parle tennis semaine après semaine comme nous. On le fait, puis ça nous fait bien plaisir de le faire parce que les trois, on trippe pas mal. Et c'est pour ça que Nico est fatigué. C'est parce qu'il trippe sur le tennis avec tous les autres sports qu'il a à couvrir. Messieurs, justement, parlons de tennis puisque c'est notre mandat. On va faire le résumé de ce qui s'est passé dans la première semaine d'activité à l'Omnium d'Australie aux internationaux. D'Australie. On va regarder ce qui s'est passé du côté des Canadiens. On va aller voir aussi quelques autres grandes histoires parce qu'il y a eu des scénarios un peu improbables depuis le début de ce tournoi-là. Peut-être revenir sur ce qui s'est passé du côté de Netflix aussi. On a mis la table un peu la semaine passée. Et puis, évidemment, on va regarder, on va analyser les demi-finales qui s'en viennent. Je pense qu'on va avoir tout un spectacle, surtout dans le bas du tableau du côté des femmes et du côté des hommes. Sortez le popcorn. On va avoir du fun. Nico, je veux qu'on commence avec les Canadiens. Partons avec Félix Auger-Aliassime. On regardait son tableau, on savait que ça allait être compliqué. On se disait, s'il se rend à Medvedev, il pourra dire mission accomplie. C'est ce qu'il a fait. Est-ce que tu peux dire que tu es satisfait de son tournoi ou encore une fois, il prouve qu'il y a encore un écart entre les grands joueurs et lui?
Non, mais je trouve, puis je reviens à ce que je vous disais la semaine passée, les gars, je vous trouvais un peu pessimiste, là, a priori, vis-à-vis Félix. On disait, oui, tableau difficile, puis là, on avait de gros scénarios de s'il perd encore au premier tour. Qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'on va réagir? Comment lui va réagir? Puis je vous avais dit, ça se peut qu'il gagne, les gars. Félix demeure un joueur compétent, un joueur rempli de talent. Reste, tu le dis, Alex, son tableau est extrêmement complexe. Et contre Medvedev, je pensais que son niveau de jeu elle a être un peu plus élevée compte tenu du moment. On sait, c'est sa bête noire, Medvedev. Il a le numéro de Félix Auger-Aliassime. Puis je me disais, Félix, pour commencer l'année, il aura le couteau entre les dents. Et force est de constater qu'il était sa bête noire et Medvedev le restera.
Hugues, commentaire sur cette victoire de Daniil Medvedev sur Félix Auger-Aliassime. Satisfait ou est-ce que tu restes un peu en demi-teinte? Parce que je le disais, ça prouve un peu encore l'écart entre le top 5 et le reste, là.
Objectivement, vous le dites, les gars, le classement a été respecté dans ce match-là. Donc, Félix qui était 27e favori, on sait qu'il se situe autour de la 30e place mondiale au classement. Medvedev, numéro 3, et, tout un numéro 3. Donc, au niveau du troisième tour, ça va. Par contre, la performance et le résultat est une révélation, en fait, là, de l'état de Félix en ce moment. Victoire quand même assez définitive, là, assez sèche là, de Medvedev, 6-3, 6-4, 6-3. Félix n'a pas été prêt d'aller chercher un set. Et pour moi, ça monte l'écart encore entre Félix et le top 10 en ce moment. Je pense que physiquement, il est bien, mais bon, il a dû quand même batailler ferme pour Batim au premier tour dans un match de 5 heures, de 5-7. Même contre Hugo Grenier, deuxième tour pour Félix, un qualifié jeune français, il a échappé un set, mais quand même une victoire solide. Mais si on regarde les matchs de Medvedev, il y a des joueurs qui réussissent à le chauffer un peu. Là. Je pense à Borges au premier tour, au prochain tour, après Félix qui a joué contre Medvedev. Il a quand même été chercher un set et il avait une bonne tactique de jeu. Il a fait beaucoup de points, Borges, le Portugais. Donc moi, je suis un peu déçu justement de la performance tactique de Félix qui a démontré encore qu'il y a un écart qui, on le souhaite, il pourra combler dans les prochaines semaines.
Oui, là, la mauvaise nouvelle, c'est que l'année passée, ben, il avait fait une ronde des 16 en Australie. Alors, il va perdre des points. Ce ne sera pas catastrophique là, parce que c'est quand même un troisième tour, mais il avait quand même mieux fait dans ce grand chelem-là l'année passée avec une défaite bon, à son premier tournoi, à son premier match aussi. C'est un début d'année un peu à l'image de son année de l'année passée si on exclut la fin. Bon, souhaitons que les choses se replacent sur Félix. Nico, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus à dire que ça dans le cas de Félix Auger-Aliassime.
Non, simplement que Medvedev, je pense que comme Hugues l'a souligné, il est dans une classe à part. On se demandait comment va-t-il réagir. Djokovic, Alcaraz, mais les gars, Medvedev, il est encore là.
Wow. Ah ouais, oui.
Ben, écoutez, vous savez, comme j'aime le dire, si Medvedev remporte le tournoi, peut-être, mais en même temps, Hugues, comme tu l'as dit, il y a d'autres joueurs qui ont mieux performé contre Medvedev dans ce tournoi-là. Et ça, exact. Je trouve que c'est un indicateur intéressant que tu apportes au-delà de sa victoire ou de sa défaite contre un bon joueur. Bon, Nico, j'enchaîne aussi avec toi, avec Leila Annie Fernandez. Que penser de son tournoi au moment où on a fait l'enregistrement la semaine passée? Ben, elle n'avait pas terminé son tournoi. Elle a finalement perdu contre Alicia Parks. Que penser de cette défaite?
Oui, je pensais que, puis on s'en était parlé, les gars, en preview de ce tournoi, je pensais que Leila était la joueuse canadienne, et même chez les gars, qui allait peut-être pouvoir tirer son épingle du jeu. Je vous le disais, elle a joué de niveau grand chelem lors de la Coupe Billie Jean King, et je pense que les filles sur le circuit l'ont un peu oublié, du moins l'attendre un peu moins qu'on l'attendait au moment où elle a atteint la finale au US Open. Un peu resté sur ma faim, mais ça reste que Alicia Parks, les gars, on sait, c'est une joueuse qui peut jouer la carte du Joker. Elle peut battre à peu près n'importe qui. Elle est tenace comme Leila. Je m'attendais à plus. Ça reste que c'est un premier tournoi Grand Chelem. La saison, elle est encore très, très jeune. Là, je voyais des gens sur les réseaux sociaux dire, bon, une autre saison de misère attend l'équipe canadienne. Un instant, là. Ça fait un tournoi. On est encore en janvier. Il reste 11 mois la saison. Laissons-leur le temps de prendre leurs aises, prendre leur repère, retrouver leur repère. Et pour Fernandez, je pense que c'est juste une question de temps, puis on le sait, l'Australie n'est pas l'endroit où elle performe le mieux. Là. À prime abord, je pense que ça va prendre quelques mois, quelques semaines avant de vraiment reprendre le rythme. Je l'attends de pied ferme pour le swing américain. Indian Wells, Miami, je pense que c'est là qu'on va vraiment voir de quel bois elle se chauffe en vue du gros boost de la saison. Mais présentement, je ne suis pas inquiet du tout pour Fernandez.
Mais quand même, Nico, tu nous es arrivé la semaine passée en disant « Je vais un peu changer mon attitude et c'est pas des blagues, j'essaie d'être un peu plus positif. » Voilà, te voilà un homme renouvelé en 2024, mon cher Nico.
2024 me va déjà bien. Mais écoute, je travaille là-dessus.
2024 sera ton année, Nicolas Richard.
Je serai plus tempéré.
Hugues, commentaire sur cette performance de Leila Fernandez contre Alicia Parks.
Ouais, encore une fois, comme pour Félix, je vais essayer de mettre en perspective sa performance en Australie. Donc, défaite de 7-5, 6-4 contre la jeune Alicia Parks. Très bonne jeune joueuse américaine qui me fait beaucoup penser aux Williams. Très athlétique, une grande fille qui frappe très fort, très, très bon premier service. Ce qui me déçoit dans le 7-5, 6-4, c'est que Leila, Ça a donné une très bonne avance dans le premier set qu'elle n'a pas réussi à conserver. C'était 5-1. Elle s'est fait remonter d'une façon assez, assez décevante. Là, elle avait quand même bien placé là, sa manière de jouer. Et Ali Shapard s'est bien ajustée. Elle est là, n'a pas réussi encore une fois à suivre la cadence. Elle s'est fait déporter par les frappes très lourdes d'Alicia Parks. Elle était souvent derrière la balle. Donc, c'était un petit peu compliqué là, pour Leila quand Parks a trouvé ses marques. Et moi, j'espérais voir Leila au prochain tour contre Coco Gauff, hein, qui est la joueuse en forme du moment. Et là, on aurait eu un bon indicateur. Là. Moi, je crois que Leila peut revenir dans le top 20 cette année et plus. J'aurais bien aimé voir ce match contre Coco Gauff. Et Alicia Parks a perdu 6-0, 6-2 contre Coco Gauff. Donc, défaite sévère là, de celle qui a gagné contre Leila. Et ça me fait dire encore une fois, Leila, il y a peut-être encore du progrès. Moi aussi, je la voyais en fin d'année, en très bonne forme. Bon début à la United Cup aussi. En confiance, elle a retrouvé son identité dans les dernières semaines, derniers mois. Je pense qu'elle aura une bonne année, mais encore des apprentissages là, de cette défaite contre Alicia Parks. Donc, je suis un petit peu déçu. J'aurais aimé qu'elle gagne ce match-là pour l'avoir contre Coco Gauff, mais bon, c'est pas ce qui est arrivé.
C'est sûr que ça fait pas foi de tout, mais moi, ce qui me fatigue dans cette défaite-là contre Alicia Parks, c'est que ben, on l'a vu à Montréal l'année passée en qualification contre Marina Stakusic et Stakusic a passé à ça de battre Alicia Parks. Et écoutez, peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, Leila et Marina, autant que Marina a progressé dans la dernière année et a fait flèche de tout bois, je pense que Leila est dans une autre ligue présentement par rapport à Marina Stakusic qui a passé à ça de battre Alicia Parks. Alors, je pense que ça aurait été un adversaire à sa portée. Et moi aussi, j'aurais aimé ça l'avoir contre Coco Gauff. Peut-être même embêter Coco Gauff, tu sais. Oui. Mais moi, c'est un peu ça qui me fatigue. Mais écoute, c'est pour ça qu'on joue les matchs. Si on savait qui gagnait d'avance, ben on ne les jouerait pas. Mais bon, c'est un peu décevant. Nico, je m'en voudrais d'exclure Gabriela Dabrowski de notre résumé parce qu'elle est encore en lice. Il y a encore une Canadienne dans ce tournoi-là en double. Dabrowski et Rotliff, ben, eux autres sont en demi-finale présentement. Et puis, ben, écoute, content de voir que ce groupe-là ben, peut-être est encore en possibilité d'aller chercher un autre titre Grand Chelem, un deuxième de suite. Ça ne sera pas simple contre Ostapenko et Kishinov.
Oui, Rotliff, une autre semi-canadienne. Les gars, ne l'oublions pas. Dabrowski qui, je pense, cette année sera encore l'assurance du côté canadien dans les tournois du Grand Chelem. Elle le prouve encore. Elle change de partenaire, a des creux de vague, mais à chaque fois qu'il y a un tournoi du Grand Chelem, ou presque, elle performe. Elle est des deuxièmes semaines. Encore une fois, les gars, titre à New York il y a quelques mois. Il faut s'attendre, je pense, à un autre titre Grand Chelem pour Dabrowski. Pourquoi pas une médaille olympique?
Elles sont les favorites là, contre les 11e têtes de série. Je te parle de Ostapenko et Kishinok. Dans l'autre partie de ce tableau-là, ben, on a quand même deux excellents duos. Là. Hunter contre Siniakova qui représente la 3e tête de série. On sait à quel point Siniakova a fait des dommages avec sa meilleure amie ou une de ses meilleures amies, Krejcikova, qui passe à l'histoire comme une des meilleures paires de double au monde. Ne joue plus ensemble, du moins pour l'instant. Et Mertens, qui est excellente en double avec Yesh, ce sera la 2e tête de série contre la 3e tête de série de ce côté-là. Alors, peu importe qui Dabrowski et Rotliff affronteront en finale, s'ils devaient atteindre la finale, ce sera compliqué. Là. Un commentaire sur Dabrowski rapidement.
Ouais, ben, merci à Gabi de Dabrowski et Hélène Rotliff de nous amener une Canadienne ou une paire canadienne là, en deuxième semaine. Je suis déçu, je reviens un peu sur le simple d'avoir aucun garçon, aucune fille en deuxième semaine en Australie. On n'était plus habitués à ça, les gars, depuis quelques années, où on amenait un, deux ou trois athlètes là, dans la deuxième semaine des Grands Chelems. Donc, voyons voir comment tout ça va se passer pour le reste de la saison, mais ce n'est pas le début espéré au niveau du contingent canadien à Melbourne. Mais Dabrowski, Rotliff, intéressant, 4e favorite. On a dans les demi-finales, dans les 4 équipes qui sont en demi-finale du côté double féminin, 3 des 4 premières équipes favorites. Donc, le niveau est respecté. Puis effectivement, comme le dit Nico, les championnes du US Open en titre qui se retrouvent en demi-finale, qui sont favorites dans leur demi-finale. Moi aussi, je les vois se rendre jusqu'en finale et je pense que c'est l'équipe vraiment à surveiller. Là. Elles peuvent aller chercher un match si jamais c'est l'équipe de Mertens et Aish qui passe du côté de l'autre côté côté du tableau. Donc, on a des fortes possibilités là, d'avoir un autre titre là, en Grand Chelem cette année, en tout cas avec Dabrowski-Ratcliffe encore.
Oui, tu fais bien de dire. Et même s'il fallait que ce soit Hunter Siniaková qui passe, ce qu'il faut rappeler en double, c'est que les têtes de série sont faites en fonction des classements du double. Alors, Siniaková est nécessairement un excellent classement en double. Alors, bon, l'affiche est peut-être un peu... pour une nouvelle équipe, là, ça ne représente peut-être pas la force nécessaire de l'équipe, alors que Dabrowski et Ratcliffe, ben, eux, viennent de remporter le US Open et ils se connaissent bien. La chimie, elle est visiblement là, puisqu'on est encore en demi-finale. Alors, qui sait, peut-être qu'on aura un titre canadien. On va en reparler certainement lundi prochain dans cette courte semaine de sur la ligne. On est comme dans la NFL, un petit match le mercredi et un autre match le lundi ou le dimanche. Ça sera courte semaine pour Sur la ligne, mais deux épisodes en pas beaucoup de temps, ça nous fait absolument plaisir de le faire. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va regarder les belles histoires qui se sont passées dans la première semaine d'activité. Il y a eu des histoires un peu surréelles. On en parle après la pause.
Les cours de yoga et de méditation à l'Hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmonville.com. Faites plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin. L'Hôtel Monville vous a créé une offre spécialement conçue pour cette occasion, incluant 20% de rabais sur votre nuitée, boîte de chocolat, petit déjeuner pour deux et un délicieux souper 3 services au restaurant Monem. Rendez-vous sur hotelmonville.com pour réserver votre séjour.
J'entendais la promo de l'Hôtel Montville durant la pause, Hugues, et je prends 2 secondes pour les remercier à nouveau parce que toi, tu travailles avec eux de près également là, dans le cadre de d'autres fonctions. Puis ils sont partenaires avec nous depuis le tout début et j'allais dire nous supportent inconditionnellement. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais pas loin. T'sais, ils nous ont permis de faire des concours. L'hôtel, elle est absolument incroyable, tellement bien située au centre-ville. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais je prends l'occasion là, pour les remercier une fois.
Oui, je travaille avec l'équipe de Jean-Cédric Caliès chez le Montville, qui est un hôtelier, en fait. Bon, c'est les hôtels Montville et Gault, pour ceux qui les connaissent au centre-ville dans le Vieux-Montréal. Gault, qui est un très bel hôtel boutique là, qui existe depuis longtemps dans le Vieux-Montréal. Et le Montville, qui est un nouvel hôtel à la fine pointe de la technologie, un groupe qui mise beaucoup sur l'innovation. Ils sont très avant-gardistes dans leur mise en marché et dans leur utilisation de la technologie pour améliorer l'expérience des visiteurs. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Donc oui, effectivement, je les remercie moi aussi parce qu'ils sont là depuis le début, partenaires importants pour nous là, dans notre réussite. Donc, c'est un plaisir de poursuivre avec eux d'année en année.
Et on les amène avec nous dans nos nouveaux projets aussi, puis ça nous fait bien plaisir de les faire parce que, c'est ça, ils étaient là depuis jour 1 et Nico est toujours impressionné par le petit robot qui apporte
toutes sortes de choses. Oui, le room service n'est pas revenu encore.
Le petit R2 des deux. Voilà. OK, messieurs, je veux qu'on revienne sur quelques histoires. Je veux qu'on commence avec elle. Elle a commencé à faire parler d'elle, pas à peu près. Mira Andreeva, 16 ans. Encore une fois, elle a fait, j'allais dire flèche de tout bois. Elle a fait un retour spectaculaire. Elle a avancé beaucoup plus loin dans le tournoi que ce que le monde aurait pu penser. Peut-être un commentaire sur Mira Andreeva. Nico, peut-être résumer son histoire, là, si tu le veux bien.
C'est assez phénoménal, et on l'a découvert l'an passé à Wimbledon, une jeune Russe qu'on n'attendait pas, que personne n'attendait. Et à Wimbledon, sous niveau, on se disait, lorsqu'on regardait les experts qui, elle, la connaissaient depuis un certain temps, on disait, on savait qu'elle allait être bonne, mais si rapidement, jamais. Visiblement, une histoire qui est similaire à celle de Coco Gauff. Souvenez-vous, la jeune Américaine qui explose à Wimbledon. Et là, Andreeva qui est encore une adolescente, là, je pense qu'elle n'a même pas fini le secondaire encore.
16 ans.
Revient en Australie, affronte parmi les meilleures choses au monde et fait très, très bonne figure, bon notamment 11 jabeurs. Et on la savait déjà fragile, 11 jabeurs, mais imaginez comment elle doit vivre présentement avec la pression d'être battue par une jeune fille de 16 ans. Mais Andreeva, ce qui est fascinant, c'est son entre-gens. Souvenez-vous, lorsque Coco Gauff a gagné à New York l'an passé, on se disait qu'elle est bonne pour les médias, qu'elle est bonne pour le tennis, qu'elle est bonne pour se vendre. Andreeva, c'est exactement la même chose. Elle est spectaculaire, elle est prometteuse, mais elle est surtout bonne pour le tennis, je pense. On lui met beaucoup de pression présentement parce qu'elle excelle dans les tournois du Grand Chelem. Voyons voir où ça va l'amener. Mais ouais. Présentement, s'il y a une jeune sur le circuit qui en impose et qui pourrait peut-être suivre les traces d'une Coco Gauff, c'est Mirandreva.
Écoutez, c'est phénoménal ce qu'elle a fait depuis les deux premières semaines de l'année. Là. À Brisbane, elle a fait un quart de finale. Elle a battu notamment Ludmila Samsonova à son passage, un 6-2, 6-1. Elle n'est pas banale, Samsonova. Elle a fait un bon match aussi contre Noskova. On y reviendra parce qu'elle est, elle aussi, une des belles histoires dans ce tournoi-là. Mais tu as parlé, elle a battu 11 jabeurs, 6-0, 6-2. Elle a fait un 6-0, 6-2 à 11 jabeurs. C'est une fille qui peut aspirer à remporter un titre Grand Chelem. Et elle a que 16 ans, Andreeva. Et puis, que dire de son retour contre Diane Paris, Hugues? Écoute, elle perdait 5-1, fait face à balle de match sur son service et finalement remporte ce match-là au bris d'égalité 7-6 pour aller chauffer Krejcikova au quatrième tour. Quelle histoire, Mira Andreeva, dans ce tournoi-là.
Oui, elle montre déjà beaucoup, beaucoup de caractère pour son jeune âge, son idylle ou son appréciation d'Andy Murray. Une histoire qui continue, qui fait sourire à chaque fois. Elle est éminemment sympathique, cette Mirandreva. Et oui, cette victoire à l'arraché contre Paris au troisième tour, au tie-break du troisième set, 10, c'est un super tie-break, 10-5, premier à 10 là, pour ceux qui suivent là, les variations dans les pointages des tie-breaks. C'est un super tie-break là, au troisième set du côté féminin. Et après, elle a chauffé quand même Krejcikova, une joueuse d'expérience, 9e favorite, un 3-7.
Championne de Grand Chelem.
Elle est vraiment partie pour une belle carrière, cette Mirandreva.
Ben, écoutez, messieurs, c'est sûr que Coco Gauff est là, mais elle est un peu plus vieille là, à peine.
Oui.
Mais est-ce que Andreeva est la prochaine, the next one, comme on dit, 16 ans avec des résultats comme ça. Écoutez, c'est pas des résultats banals. Je dis, elle a fait un quart de finale à Brisbane. Ouais. Elle est partie, puis tu le dis, elle a un peu ce côté Medvedev-là de russe sympathique. Et tu le dis, elle a les yeux en cœur quand elle parle d'Andy Murray. Là, ça vient de voir ces clips-là à peu près à chaque tournoi, on lui en parle. Et puis, là, c'est la dernière fois, Andy Murray a tweeté sur elle, on lui en a fait part. Là, et puis, je pense qu'elle était particulièrement contente. Quelle histoire! Elle est sympathique et je pense qu'elle va être bonne pour le tennis, Mirandreva. En tout cas, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. 16 ans, elle est déjà 47e au monde, assurée d'être top 35 déjà après ce tournoi-là. Je pense que vous allez voir son nom de plus en plus. Je vous disais qu'elle a affronté Noskova. Ben, Noskova aussi, c'est toute une histoire et elle est encore, elle était encore en lice jusqu'à dans les dernières heures. Là. Est-ce que Nico, tu t'attendais à voir Noskova, 19 ans, aller aussi loin dans ce tournoi-là où elle a battu notamment Świątek, Svitolina qui s'est retirée, mais quand même, elle a battu au passage la numéro 1 mondiale avant de perdre en quart de finale contre Yastremska.
Je vais t'avouer franchement, Alex, qu'il n'y a pas grand-chose auquel je m'attendais dans ce tournoi qui arrive présentement. Je trouve que pour le tennis présentement, c'est un vent de renouveau, un vent de fraîcheur. Je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Certains préfèrent que les meilleurs soient les meilleurs, que Świątek soit toujours là, que Ons Jabeur soit toujours là. Et d'autres, comme moi, je dirais, qui aiment le fait que le tennis est de plus en plus imprévisible. Oui, il y a des filles comme Kostyuk, comme Zheng notamment, qui tire leur épingle du jeu. Mais lorsqu'on suit le tennis avec attention, on se rend compte que même si peu de gens les avaient vus si loin dans le tableau, ces filles-là n'arrivent pas de nulle part. Ce sont des joueuses talentueuses qui suivent le fameux processus, qui ne sont peut-être pas des talents générationnels comme Świątek ou comme Sabalenka, par exemple, mais qui demeurent compétitives semaine après semaine, mois après mois, année après année. Donc oui, présentement, dans l'Open d'Australie, comme les joueuses que tu as nommées Alex, on ne les attendait peut-être pas, mais je trouve que ça jette les bases sur une saison qui s'annonce franchement excitante dans le tennis féminin.
Hugues, je me permets de te relancer la question parce que Nico en a évoqué. Il y a quelque chose qui se passe dans le tennis. Est-ce que c'est bon pour le tennis qu'un haut du tableau comme ça se fasse exploser, que les grands noms sortent? Est-ce qu'on aime ça avoir les grands noms en général en fin de tournoi? Là? Ton micro est sur mute, Hugues.
À part Gauff et Sabalenka là, qui ont passé.
Ce sera la finale d'ailleurs.
On pourra reparler de Sabalenka qui n'a pas échappé plus que 3 jeux. Elle n'a perdu aucun set, évidemment, depuis le début du tournoi. Elle connaît un parcours sensationnel, Aryna Sabalenka, en ce moment. Moi, je suis quand même un peu inconfortable parce qu'il y a seulement 4 joueuses des 20 favorites en deuxième semaine. J'aime bien voir l'émergence de joueurs. Je me régale de voir Yastremska, Zeng aussi. J'ai beaucoup aimé Kostyuk durant ce séjour à Melbourne. Mais quand même, ça démontre la fragilité du top 20. Pas juste de quelques joueuses. Je ne parle pas des top 5. Là. Je parle du top 20. Et ça me perturbe un petit peu. Je reviens à une interview d'après-match qu'Alcaraz a donnée il y a quelques jours où on lui disait « Qui tu regardes à la télé? » Et il a évidemment parlé de Medvedev, de Sinner, de Djokovic. Et il n'a pas pu nommer une joueuse du côté de la WTA. Je regarde un peu de WTA aussi, si j'ai l'occasion. Donc, il y a un peu un déficit, encore une fois, de
notoriété.
De notoriété et de star auxquels les fans peuvent se rattacher. Et ça peut faire mal des fois au niveau des ventes de billets, au niveau des audiences télé aussi. Donc moi, je regarde plutôt le côté commercial, vous le savez, là, quand je suis ces performances-là. Donc, je suis content quand même que Goff et Sabalenka se retrouvent pour une demi-finale popcorn de très, très haut niveau. Ça va être un des matchs de l'année, j'en suis convaincu. Sabalenka, qui est championne en titre à Melbourne, je le rappelle. Mais un peu déçu quand même que seulement 4 des 20 favorites ont passé en deuxième semaine.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et en même temps, bon, ce sera à j'ai l'impression que la place est à prendre pour Coco en ce moment. Elle est parfaite, tout jeune, déjà championne de Grand Chelem. Elle a un charisme absolument fou, une belle histoire. Je pense que pour les Américains, elle a un petit côté traditionnel américain aussi. Là, j'ai l'impression que c'est à elle de prendre la place présentement.
Et Alex, on sait qu'elle est coachée par Brad Gilbert depuis l'été 2023 et qui a été un facteur important de sa victoire, son premier Grand Chelem, victoire en Grand Chelem au US Open. Mais je rappelle ce fameux livre écrit par Brad Gilbert, Winning Ugly. Et il a appris à Coco Gauff à gagner quand ça ne va pas très bien. Plus de 50 fautes directes dans son match de quart de finale contre Kostyuk. Elle a réussi à s'en sortir quand même. Et elle-même a dit, c'était Winning Ugly, mais j'ai gagné. Et c'est ça qui est la marque d'une grande championne. Et Brad Gilbert l'a aidé beaucoup dans cette dimension-là.
On va revenir sur ces demi-finales dans le dernier bloc parce qu'on va terminer ou à peu près là, avec ça. La dernière histoire là, que je veux parler du côté des femmes, c'est celle de Yastremska, la préférée d'Eugénie Bouchard. C'est que Eugénie Bouchard plus ou moins sous-entendu, a plus carrément accusé Yastremska de se doper. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est difficile de ne pas penser que peut-être il y a quelque chose qui se cache derrière ça. Mais enfin, Yastremska, elle est une superbe histoire dans ce tournoi-là. De un, elle a dû se qualifier pour le tournoi. Elle a battu par la suite Vondrousova, championne à Wimbledon. Navarro, une Américaine qui n'est pas banale, facile à battre. Victoria Azarenka, sans être encore la numéro un mondiale qu'elle a été ou la championne de Grand Chelem qu'elle a été, elle a quand même fait une ronde des 16. Et Noskova, on vient d'en parler, qui connaît tout un début de saison. Elle l'a battue. Yastremska, elle est encore en lice dans ce tournoi-là après s'être qualifiée. Et puis, elle va affronter le jeune talent chinois, Quinn Yin Zhang, qui a 21 ans. C'est un nom que vous allez entendre pas mal. Mais enfin, c'est une histoire assez exceptionnelle là, quand même.
93e mondial, Yastremska. 93e, elle est encore de finale dans le carré d'as. Superbe parcours.
Oui, mais elle est 93e, mais elle va faire un saut là, pas loin de la 30e place mondiale. Là.
Assurément.
Alors, c'est toute une histoire à surveiller du côté des femmes. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Et d'ailleurs, on va en parler parce que, allons-y tout de suite là, du côté des demi-finales, du côté des femmes, puisqu'on est du côté de Yastremska contre Zhang. Vous voyez qui sortir de cette demi-finale-là dans le haut du tableau. Et on le disait tout à l'heure, là, si c'est des noms que vous connaissez un petit peu moins, c'est un peu normal parce que le haut du tableau s'est fait détruire à grand coup de surprise. Hugues, je commence avec toi. Tu la vois comment, cette demi-finale-là?
Zheng, 12e favorite. Donc, sur papier, c'est elle qui devrait passer le fil d'arrivée comme gagnante. Mais Yastremska m'a beaucoup impressionné. Son aplomb contre Azarenka, notamment. Je pense que ça va être un match très serré en 3-7. Zheng a joué des matchs en 3-7 aussi durant ce tournoi-là. Il y a peut-être un petit peu de fatigue aussi. On verra. Mais je pense que Yastremska a gagné en confiance durant l'Australian Open cette année, Open d'Australie. Et je pense que Yastremska va, à l'image de ce volet féminin où il y a eu quelques surprises, va se rendre en finale. Donc, je mets Yastremska gagnante en 3-7.
Nico?
J'aime beaucoup Zhang. J'ai eu la chance de lui parler l'an passé, juste avant le US Open, avec Kostyuk notamment. C'est drôle parce que les deux connaissent un tournoi phénoménal. Puis ce qui m'avait marqué des deux joueurs, c'est que, bon, je le disais, c'est peut-être une semaine là, avant le début du US Open, je leur avais demandé quels sont vos objectifs de fin de saison. T'sais. Puis les deux du tac au tac m'avaient répondu gagner le Grand Chelem. Gagner le US Open, alors que personne ne les attendait. Là. Rappelez-vous, ouais. Là, il y a quelques mois, là, Zhang et Kostyuk, là, c'était pas parmi les favorites nécessairement. Là. Donc, d'avoir cette confiance. Puis j'ai toujours trouvé Zhang un peu fragile, un peu timide sur le terrain lorsque les peu de fois que je l'ai vu jouer.
Ouais.
Et j'ai regardé un match en particulier, c'était son avant-dernier, où je l'ai trouvé féroce, agressive. On voit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu dans son, peut-être dans, sa change, dans son changement de préparation ou dans sa manière d'aborder les matchs. Mais j'aime que Zhang soudainement devienne peut-être ce qu'elle a voulu devenir l'an passé. Donc, je pense que Zhang va l'emporter. Il faut dire aussi le tableau un peu plus simple, peut-être plus, plus
reposé. Elle est du bon côté, en tout cas.
Fait que je mettrai une patte d'ours sur Zhang pour cette demi-finale.
Ben, t'as raison que son tableau a été beaucoup plus simple parce que, bon, tantôt, je nommais grand nom après grand nom pour les grandes surprises, mais ça fait en sorte que les grands noms ont tombé aussi. Et au final, elle aura affronté Kruger, Bolter, Wang, Dodin et Kalinskaya qui sont pas des joueuses à la hauteur là, d'une Swiatek ou d'une Coco Gauff là, sur son
aucune
parcours.
Aucune tête de série, Alex. Aucune tête de série dans son parcours.
Mais par contre, je pense que Zhang est peut-être la joueuse du top 20 avec le plus grand, la plus sous-estimée au monde, j'ai l'impression. On n'en parle presque pas et cette fille-là risque d'être top 10 mondial après le tournoi. Alors, ou tout près du top 10 mondial. Alors, c'est une fille dont on ne parle pas beaucoup.
Elle est un peu sous le radar, effectivement. Oui.
Oui, elle est un peu sous le radar et c'est et une des meilleures joueuses au monde. Alors, moi, je ne serais pas surpris de l'avoir là et qui sait. Mais je pense que la finale, messieurs, et vous allez être d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'on ne s'obstinera pas là-dessus, là. La finale avant la finale, elle est dans le bas du tableau et ce sera attachez vos tucs, Sabalenka contre Coco Gauff. Hugues, je suis sûr que tu te délecteras de ce match.
Sabalenka, qui est un rouleau compresseur à Melbourne cette année, je le répète, elle n'a pas perdu plus que 3 jeux dans aucun set. Évidemment, aucun set échappé jusqu'à maintenant. Gauff qui trouve les moyens de gagner. C'est elle qui est championne du US Open en titre. Sabalenka, championne en Australie il y a un an. Donc, ça va être tout un match. Je m'attends à un feu d'artifice là, de ce match-là. Ça va être autant j'étais un peu déçu là, de 4 joueurs seulement du top 20 qui étaient en deuxième semaine. Autant cette demi-finale-là, c'est très, très alléchant. Je m'attends à un grand match.
Nico?
Difficile de choisir une gagnante, les gars. J'ai de la difficulté à choisir une gagnante entre les deux.
100%.
La semaine passée, les gars, j'ai fait 2 prédictions. Djokovic, le grand chelem doré, mais ça, je pense que c'est un automatisme. Et j'ai fait aussi Sabalenka remportera l'Open d'Australie. Je maintiens cette prédiction. Sabalenka, plus peut-être fatigant, parce que je vous en parle à chaque semaine presque là, de Sabalenka, là, mais plus je la vois aller, plus je suis convaincu quand même si Swiatek est première mondiale, il n'y a personne qui a le talent, qui a l'aplomb, qui a la confiance, qui a la férocité.
Elle, la première, dans sa façon de jouer, c'est la première.
Elle n'a aucun égal sur le circuit, les gars. Rarement, on suit le tennis depuis longtemps, vous depuis plus longtemps que moi, là. Puis depuis peut-être Serena Williams, j'ai pas vu une joueuse
aussi puissante.
Ben non seulement aussi puissante, mais prendre, comment je dirais, elle arrive sur un terrain et on sait qu'elle joue. On pourrait
elle en impose.
Exactement. Elle a cette espèce de charisme, même si ultimement, elle a l'air extrêmement joviale, extrêmement sympathique, que lorsqu'elle entre sur le terrain avec son sac Wilson sur le dos, elle s'en va à la guerre. Et j'aime cet aplomb de Sabalenka, puis je pense qu'elle va le traîner non seulement en Australie, mais aussi à Wimbledon et certainement aussi au US Open.
Intéressant. Et tu sais, on parlait de, il y a une place à prendre dans le monde du tennis pour les futures vedettes et sans dire que c'est une future vedette puisqu'elle en est une pour l'instant, Sabalenka, mais elle est incroyablement sympathique. On l'a vu sur Netflix, dans la série et puis sur les médias sociaux. En tout cas, ils font un bon travail, son équipe de communication pour la faire paraître proche du public et accessible avec un sourire là, toujours ou à peu près aux lèvres, même quand elle perd, elle est sympathique. Là, vous vous souvenez l'histoire où elle a fait semblant de frapper l'auto avec le trophée de deuxième place. Là. Tu sais, c'est une fille qui est charmante.
Au-delà de ça, Alex, tu parles des lignes de com, mais même dans son naturel, rappelez-vous l'an passé, je pense que c'est à Miami ou Indian Wells où elle a battu contre Rybakina. Puis il y avait une espèce de camaraderie entre les deux qui est extrêmement naturelle. Puis Sabalenka, vous rappelez-vous, elle avait dit « Plus jamais je vais me faire battre par toi au centre de la scène », alors qu'il y a quelques secondes auparavant, elle pleurait parce qu'elle avait perdu. Mais ultimement, on a retrouvé la switch de « Hey, on joue au tennis, on a du plaisir, c'est le fun ». Donc moi, j'aime cet aspect de Sabalenka qui est capable d'être à la fois la vilaine sur le terrain. Puis je comprends qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas à son style de jeu, à sa personnalité. Mais lorsque la raquette tombe, ben, je pense qu'on découvre une personne extrêmement attachante.
Oui, oui. Elle est très, très bonne pour le tennis féminin et le tennis en général, Sabalenka. Puis on en a beaucoup parlé en 2023. Elle a passé un cap au niveau mental aussi. Mmh. Elle laisse aller ses émotions, tant positives que négatives. Et ça la rend très attachante, tu l'as dit, Alex. Et quel jeu, là, quel one-two-punch, service volley, service coup droit, pardon, donc service plus un. Et elle a passé ce cap où des fois, elle bloquait sur son service. Tout d'un coup, son service disparaissait complètement. Elle ne pouvait plus servir une première balle. Je pense que cette étape-là est maintenant franchie et elle est partie pour la gloire, Sabalenka. Je pense qu'effectivement, elle va revenir numéro un dans le premier quart de l'année. Donc, si ce n'est pas tout de suite après l'Australie, ça va être rapidement avant ou durant le Sunshine Double. Elle est extrêmement à l'aise sur surface dure aussi. Elle est en grande forme physique. Elle en impose. C'est vraiment le mot juste. Là. Elle m'impressionne beaucoup, Sabalenka.
Mais au-delà de ça, Hugues, puis je ne veux pas faire trop de temps, Alex, là-dessus, mais elle a juste 25 ans. Je trouve que parfois, on oublie à quel point elle est jeune. Puis il y a plein de défauts dans son jeu, que ce soit sa deuxième balle. Tu parles de son monte au filet qui n'est pas toujours parfaite. Dans sa gestion aussi, des retours de service qui n'est pas toujours impeccable. Mais imagine-toi, lorsqu'elle prendra du galon et qu'elle corrigera ses erreurs, elle sera inarrêtable.
Messieurs, je vous fais le portrait de la confrontation. Puis je veux une prédiction après. C'est pas facile. Coco Gauff mène la confrontation 4-2. Elle a gagné la dernière rencontre. Ça se passait au US Open. Elle a gagné d'ailleurs 3 des 4 dernières rencontres contre Sabalenka. Et comme je dis, elle mène la confrontation 4-2. Coco Gauff est invaincue depuis le début de l'année. Elle a gagné son premier tournoi. Elle est à 10 victoires de suite. C'est 9 victoires et une défaite pour Sabalenka. Par contre, Coco Gauff a dû trimer pas mal plus dur depuis le début du tournoi. Elle a presque 8 heures de jeu versus 5 heures et à peine et des poussières de plus pour Sabalenka. Presque 3 heures de différence entre les deux. Ça, c'est, écoutez, là, ça peut être un match et demi, 2 matchs là, de plus quasiment dans les jambes de Coco Gauff. Ça pourrait faire une différence. Championne en titre de l'Australie versus championne en titre du US Open. Hugues, je sais que c'est difficile, mais qui vois-tu aller affronter l'autre finaliste dans le haut du tableau, là, toi, tu voyais peut-être Jastremska. Là, alors, qui verrais-tu affronter Jastremska?
Si je dois faire un choix, je vais choisir Sabalenka parce qu'elle est vraiment sur un momentum incroyable. N'oubliez pas qu'au US Open, elle avait gagné le premier set 6-2 contre Gauff aussi avant que Gauff remonte là, au milieu du deuxième set. Mais je pense que Sabalenka continue d'apprendre aussi. Et je pense que ses armes vont être un peu trop pour Coco Gauff dans la finale en Australie samedi. Malgré la rapidité et le côté athlétique de Gauff, je pense que les armes de Sabalenka va lui donner raison dans ce match-là.
Nico?
Je pense qu'un peu comme Djokovic en Australie et Nadal en France, l'Open d'Australie deviendra pour Sabalenka un automatisme.
Ouais.
Dans la mesure où ce climat-là lui va à merveille, cette surface-là lui convient vraiment bien.
Ouais.
Puis lorsqu'elle est en santé, il n'y a personne qui est à son niveau physique. Donc, je pense que ce premier tournoi du Grand Chelem, année après année, deviendra un peu sa poule aux œufs d'or. Là, elle en a déjà un. Peut-être un autre cette année, ça fait déjà 2 en 2 ans. Donc, je pense qu'à chaque année, l'Australie sera la terre promise pour Sabalenka. Donc, j'y vais pour la Biélorusse.
Intéressant. Moi, je vais être très transparent avec vous. J'ai dit Coco Gauff au début du tournoi. Je vais maintenir ma prédiction, ne serait-ce que par question de cohérence. Mais quand je regarde comment le tournoi s'est déroulé, la façon dont Sabalenka a détruit son opposition, sans presque même lever le petit doigt, j'exagère, là, mais à peine. Et je pense que le 3 heures de moins dans les jambes peut faire une différence dans un match qui sera contre Coco Gauff. Si on me demandait de changer ma prédiction, je le ferais. Je vais rester cohérent avec Coco Gauff, puis je pense qu'elle a vraiment des chances légitimes de le faire. Mais je pense que demain, il y a des bonnes chances. Ce soir, en fait, je pense qu'il y a des bonnes chances que ça ait du côté de Sabalenka. Si du côté des femmes, messieurs, il y a eu beaucoup de surprises, du côté des hommes, c'est un peu moins le cas. On va avoir un méchant party de demi-finale, messieurs. Commentaire général avant qu'on tombe sur les affrontements spécifiques qui s'en viennent. Nico, je veux savoir, qu'est-ce que tu as pensé du tournoi du côté des hommes?
La question est simple, mais la réponse, je trouve, est moins évidente dans la mesure où il s'est passé tellement de trucs, mais ultimement, on en revient que c'est Djoko, que c'est Medvedev,
oui.
que c'est Sinner et que c'est Zverev. Zverev, on l'attendait peut-être un peu moins, même si je l'avais mis dans mes jokers, dans mon article de la... Comment?
Je suis pas d'accord avec toi qu'on l'attendait pas parce qu'il a vraiment, vraiment, non, vraiment
bien fait
au début de l'année.
Il a vraiment un bon niveau. Ça reste que, tu sais, depuis sa blessure, on l'a comme un peu oublié alors qu'il a un niveau qui est comparable à celui de Medvedev, Alcaraz et compagnie. Mm-hmm. Là, il est là. Je pense qu'il a vraiment marqué son retour. Il a affirmé qu'il est de retour dans le top 5. Là, disons les choses telles qu'elles sont. Là, c'est un gars de calibre top 5.
Oui.
Mais les gars, même s'il s'est passé mille et une choses pendant ce tournoi-là, on en revient qu'en demi-finale, c'est Sinner, Medvedev et Djoko. Donc, la réponse, Alex, elle est simple, mais je répondrai ainsi. Pas beaucoup de surprises. Même si ultimement, il y en a eu mille. Tu me suis, j'espère?
Commentaire général avant qu'on tombe sur les affrontements spécifiques.
Ben, quelques points notables. La victoire de Fritz contre Tsitsipas, je vais quand même parler parce que Tsitsipas risque de sortir du top 10 en début d'année, ce qui est quand même une première depuis quelques années, qui n'aura pas rempli toutes ses promesses, pas de victoire du côté de tournoi du Grand Chelem encore. Fritz qui a été chercher une très belle victoire contre Tsitsipas et qui a réussi à prendre un set à Djokovic, quand même un très bon début de match. Quelques histoires rapidement, évidemment, Manarino qui s'est rendu contre Djokovic, mais qui n'avait plus de jus. Il s'est fait sortir 6-0, 6-0, 6-3. De belle manière, il l'a pris en riant un peu, hein, son double bagel. Il ne pouvait juste pas suivre le rythme. Donc, c'était quand même intéressant ce qui s'est passé avec Manarino. Le jeune Français, Cazot aussi, un wild card, qui s'est rendu jusqu'à Urquhart. Hubert Urquhart qui fait un superbe tournoi, qui est tombé contre Medvedev la nuit dernière. Le Portugais, Borges, c'est intéressant aussi. Mais on se retrouve avec un carré d'as, avec 1, 2, 3 et 6. Donc, Alcaraz est passé très près d'y aller. Disons que la dominance avec des meilleurs joueurs du côté masculin, elle est quand même éclatante et se confirme. Et on a des demi-finales alléchantes quand même avec deux rivalités. Medvedev, Zverev, on le sait, c'est tendu entre les deux. Breakpoint aura fait un épisode sur ça d'ailleurs, notamment avec le match à Monte-Carlo. Je m'attends à ce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce match-là. Et Sinner, Djokovic, dans le haut du tableau. Sinner, oublions pas, a battu Djokovic deux fois en fin d'année dans les matchs de poule à la Coupe ATP de fin d'année. Donc, au Masters là, de fin d'année et dans la United Cup aussi. Ça va être des grandes demi-finales. Là, la table est mise là, pour un week-end vraiment excitant côté masculin.
Oui, ben, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de plaisir en fin de semaine. Je veux qu'on commence avec le match du haut entre Sinner et Djokovic. Nico, je commence avec toi et tu vas comprendre pourquoi. Es-tu inquiet pour ta prédiction? Parce que je te rappelle que Yannick Sinner a battu deux fois Novak Djokovic en fin de saison l'année passée. En deux semaines.
Je demeure confiant, mais quand même, Sinner est l'adversaire que je redouterais le plus entre tous ceux qui restent. Dans la mesure où je pense que Djoko contre Medvedev, il a les munitions et l'expérience pour le faire. Même chose pour Zverev. Tandis que Sinner, vous l'avez dit, c'est un piège. L'Italien a son numéro. C'est tellement deux styles de jeu opposés que c'est là, je pense, que Djoko peut parfois pas paniquer parce qu'il ne panique très rarement, mais se poser des questions sur sa stratégie parce que Sinner, on le sait, il est à la fois imprévisible, mais diablement prévisible dans la mesure où on sait exactement ce qu'il va donner, mais comment. Et là est la question. Djokovic, je pense, va pouvoir l'emporter. Mais c'est le match que je redoute le plus là, pour ma prédiction parce que, je vous l'ai dit, Medvedev, Zverev, je pense que c'est très prenable pour Djoko Sinner, proie extrêmement complexe.
Hugues, commentaire sur ce match-là. Qui vois-tu sortir? Penses-tu que Sinner pourrait à nouveau causer la surprise?
Oui, je pense qu'absolument qu'il peut causer la surprise. Mais Djokovic, dans les plus grands moments, et c'est les grands chelems, il est toujours présent. Il faut sortir du tennis stratosphérique pour le battre. Et je pense à la performance d'Alcaraz en finale de Wimbledon. Ça va être ce genre de jeu-là que Djokovic va amener dans son match contre Sinner. Et même si on s'amuse avec Nico un peu sur ce grand chelem doré potentiel pour Djokovic, ben c'est certain qu'il y pense, Djokovic. Et quand on dit qu'il réécrit les livres d'histoire, victoire, ça serait un statement important d'aller chercher ce Grand Chelem doré cette année. Et c'est comme ça qu'il débute cette année. Donc, il va avoir le couteau dans les dents. Ça va être du grand Djokovic. Mais on sait maintenant que Sinner peut battre Djokovic. Donc là, encore une fois, difficile de faire un choix, mais Sinner peut gagner ce match-là. Son jeu a pris en maturité, en résistance physique, en puissance physique du côté de Sinner. Une fluidité au niveau du jeu qui est tellement belle à voir du côté de Sinner. Moi, je me régale de voir ce jeune Italien qui va encore monter au niveau du classement. C'est un potentiel numéro un, je l'ai dit, à très court terme. Donc, ça va être un grand match.
Messieurs, si vous le voulez bien, je vais commencer moi-même avec ma prédiction. Et Nico, je vais te le dire en mille, ton grand chêne doré va s'arrêter au prochain match de Novak Djokovic.
Ah oui, hein,
et voici la raison. Je pense qu'il arrive avec une certaine confiance et sait qu'il peut le battre. Il l'a battu dans deux de ses trois dernières rencontres, dont deux fois en deux semaines l'année passée, en fin de saison à la Coupe Davis et au final de l'ATP. Tu me diras, oui, mais Novak a remporté la finale quand même. Il a remporté le grand match. Novak aurait pu, ne serait-ce que si t'étais pas de Sinner, ne jamais se pointer en finale. Tu viendras du tournoi à la ronde. Là. Alors, et la semaine passée, je vous posais la question, messieurs, est-ce que Novak est en train de flancher? Est-ce qu'il perd son aura d'invincibilité? Et en début de tournoi, il a été, sans dire, il n'a pas été mauvais, là, mais il a été moins dominant, je vais dire comme ça. Il a quand même pris 2-4-7 et il vient d'en faire un autre contre Taylor Fritz. Je ne dis pas qu'il devrait gagner tous les matchs en 3-7 facilement, ce n'est pas ça le point. Mais arriver contre Sinner, ça sera compliqué. Et Sinner a joué 4 heures de moins que Novak Djokovic dans ce tournoi-là présentement. Moi, je pense que ça va faire la différence parce que Novak, déjà, je vous disais, il est en train de flancher. Il a joué une quinzaine d'heures dans ce tournoi-là et 11 heures pour, ou à peu près, là, pour Yannick Sinner. Je pense que ça pourrait faire la différence. Nico, je pense que Sinner va battre Djokovic. Est-ce que tu penses que Djokovic va passer Sinner?
Je pense, oh oui, pour moi, c'est clair. Confirmé. Sinner peut battre Djoko, mais ne le fera pas.
Hugues.
Ben, Sinner connaît la même lancée que Sabalenka du côté féminin. Il échappe pas de set. Il joue en toute confiance, en toute fluidité. Il a des solutions à tout. Je m'attends à un 5-7, mais je vais quand même prendre Djokovic parce que même quand je me dis on va trouver une façon de le battre. Il y a un joueur qui va être plus en forme que lui à un moment donné. Dans ces moments-là, il trouve toujours des solutions. Attendez-vous à tout voir dans ce match-là. Il va avoir des baisses d'énergie, il va avoir des pauses toilettes, il va se passer beaucoup de choses, mais il a l'expérience pour aller déranger le joueur au moment pour aller le chercher. Et ça va jouer dans la tête de Sinner. Je pense que Djokovic va gagner ce match-là.
J'aurais jamais pensé dire ça, mais ta pause toilette est le parfait lien pour la prochaine demi-finale entre Zverev et Medvedev. Ils se connaissent depuis longtemps. Il y a beaucoup d'histoires entre les deux. Ce sont deux forts caractères sur le circuit de l'ATP. Hugues, je commence avec toi. À quoi t'attendre de ce duel à saveur russe, disons-le comme ça, là, même si Zverev est un Allemand?
Pour ceux qui ont suivi Breakpoint, la nouvelle saison, l'épisode sur Zverev et Medvedev, et spécifiquement le match à Monte-Carlo, où Medvedev, en train d'échapper le match, va enlever le poteau du filet pour déranger Zverev au niveau de son rythme, et finalement se sauver avec le match. Toute l'équipe de Zverev était dégoûtée de ce moment-là. Ils ont dit on a perdu tout respect pour Medvedev. Mais Medvedev est un génie sur le terrain. Sa gestion des matchs est inégalée. C'est le Chess Master, hein, c'est le surnom qu'on lui donne. Il l'a prouvé contre Hubert Hurkacz cette nuit encore avec une victoire en 5-7. Sublime. Moi, je suis un grand fan de Medvedev. Vous le savez, je le trouve extrêmement intelligent. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs, l'interview d'après-match avec Jim Courier où il expliquait pourquoi il recevait si loin et pourquoi il avait ajusté là, sa position en retour. Et le match contre Hubert Hurkacz, il était sur la ligne pour retourner. Donc, il a prouvé qu'il pouvait s'adapter aussi à un autre style de jeu pour ne pas donner le service volé à Hurkacz. Et ultimement, il a réussi à gagner. Donc, je pense que l'intelligence et la grande forme, il faut le dire, de Medvedev actuellement va lui donner un petit avantage sur Zverev ultimement. Donc, je mets Medvedev gagnant contre Zverev, mais dans un match très serré. Ça va aller au moins en 4-7.
Je dis, on va avoir du fun dans ces demi-finales, messieurs. Nico?
C'est une victoire, je pense, sans équivoque de Medvedev. Dans la mesure où il est, en tout cas, on l'a senti fragile dans ses premiers matchs avant Félix. On dirait que lorsqu'il a revu Félix, un joueur qu'il est habitué de voir, mais un joueur qui a un niveau similaire au sien, c'est là que, pardonnez-moi l'expression, la switch a viré à on. Dans la mesure où, écoutez, Medvedev, il se compare à Alcaraz et Djokovic. Là, dans mon livre, à moi, en termes de niveau et de compétences, il est à peu près dans ces eaux-là.
Ouais.
Zverev, oui, il est de retour. Oui, il a le niveau, mais Medvedev, il est en mission. Il va gagner ce match-là aisément. Ben, aisément. Ça reste un match de haut calibre, là, mais je pense qu'un 4-7 sera suffisant pour Medvedev. Et non seulement ça, il sera économisé plus qu'on ne le pense pour sa finale contre Djokovic. Il perdra éventuellement, mais ça reste que présentement, Medvedev, pour moi, il est, après Djokovic, là, il est le meilleur joueur au monde.
Nico, quand je dis que tu es le maître de la clip, là, t'es incroyable pour ça. Et je vais t'en tenir rigueur si jamais c'est une victoire. Je vais te féliciter, c'est une victoire aisée de Medvedev contre Zverev.
Il va perdre 6-0, 6-0, 6-1.
Ça se pourrait. Écoute, on ne sait jamais. Ça se pourrait. Moi, je pense que ça va être un feu d'artifice, ce match-là. Medvedev a l'avantage dans les confrontations. Là. C'est 11-7. Ils ont passé sensiblement le même temps sur le terrain. Medvedev a gagné 5 des 6 derniers affrontements entre les deux. Zverev a gagné pour la dernière fois. Ça se passait à Cincinnati l'été passé. Mais les deux derniers affrontements entre les deux, dont un au final de l'ATP en toute fin de saison passée. C'est Medvedev qui l'a emporté. Moi, j'ai dit Medvedev va remporter le tournoi, alors je vais être cohérent avec cette prédiction-là. Mais en même temps, Zverev vient de remporter la Coupe United. Il a été excellent dans cette Coupe United-là. Il a battu des grands noms. Là. Des grands noms. Il a quand même battu Tsitsipas. Il a quand même battu Hubert Hurkacz et Manarino. On a vu ce qu'il a fait cette semaine. Il a battu à la Coupe United et il est champion de cette Coupe du Monde-là d'une certaine manière. Il arrive avec une certaine confiance. Ce ne sera pas évident. Et peut-être aussi un esprit de revanche avec tout ce qui s'est passé dans les derniers matchs.
Contre... Ça, c'est un facteur important. Tout à fait.
Ben voilà, et peut-être Medvedev blâmera-t-il les balles si jamais il perd une fois de plus.
Ça peut être les balles, la foule, le terrain, la vitesse du terrain, l'arbitre.
Le pays, les nuages.
Les nuages, comment on a parlé de lui sur la ligne. Medvedev, il est bon là-dedans, mais qu'il est sympathique. Tu sais, il est tellement bon enfant, Medvedev, c'est ce qu'on aime chez lui. Intéressant, messieurs, ça nous fait un bon portrait de ce qui va se passer, de ce qui s'est passé et de ce qui s'en vient en Australie. On va faire une courte pause et au retour, notre opinion sur Breakpoint de Netflix. Et puis, on va parler également de la Coupe Davis qui s'en vient à Montréal.
Les cours de yoga et de méditation à l'hôtel Montville, c'est tous les mois. Rendez-vous à 9h30 les dimanches 4 février et 25 février. Ne vous encombrez pas, les tapis de yoga sont fournis. Après l'effort, le restaurant Monem vous accueillera pour un brunch gourmand. Réservez votre place sur hotelmontville.com. Faites plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin. L'hôtel Montville vous a créé une offre spécialement conçue pour cette occasion, incluant 20% de rabais sur votre nuitée, boîte de chocolat, petit déjeuner pour deux et un délicieux souper 3 services au restaurant Monem. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour.
De retour sur la ligne radio podcast officielle de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, qu'on a une entente avec Cogeco. Le podcast se déplacera vers les plateformes de C23 très bientôt. Et on en a parlé la semaine passée, sur la ligne va à la télévision. On a une entente avec TVA Sport. D'ailleurs, la première diffusion sera prévue pour l'épisode de la semaine prochaine, Hugues, si je ne me trompe pas. On va faire un épisode, le premier
l'épisode
officiel
du 29,
de la saison.
Du 29. Oui, l'épisode du 29, effectivement. Donc, cette présence télé est importante pour nous. Le bilan de fin de saison 2023 a été diffusé à TVA Sport la semaine du 4 janvier. Des très bonnes audiences de départ. On a atteint un 2,2% de part de marché dans une des diffusions. Et pour une première diffusion, on peut être très content de ces chiffres-là. Donc, oui.
Ouais, d'ailleurs, tu es retombé dans tes vieux réflexes d'avoir les codes d'écoute que tu devais regarder à tous les jours en tant que patron de TVA Sport.
Oui.
Parlant de code d'écoute, il y a une émission qui a tiré pas mal sur les plateformes de Netflix, Breakpoint, la deuxième saison. On en a glissé un mot la saison passée, la semaine passée, en se disant que la deuxième saison, elle était beaucoup meilleure. Et Hugues, pourquoi toi, tu as largement préféré la deuxième saison à la première saison, ce qui a été mon cas également?
Ben, deux points qui m'ont accroché comme téléspectateur, autant que comme fan de tennis. Hein, je regarde avec des yeux de quelqu'un qui va être diverti avant tout, avant de commencer à analyser tous les détails. Mais j'ai trouvé que le storytelling était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus engageant pour les téléspectateurs. Ils ont établi les rivalités aussi, donc tu suis des histoires en parallèle. On parlait un peu plus tôt, Medvedev-Zverev, une rivalité intéressante, la progression de Holger Rune et d'Alcaraz, c'est des histoires qui intéressent beaucoup les gens aussi. Le parallèle entre Maria Sakkari et Jessica Pegula, les filles qui tombaient toujours en quart de finale, demi-finale, vraiment intéressant aussi à suivre. Donc, je pense qu'ils ont trouvé une formule beaucoup plus captivante là, qu'à la première saison. Ils semblaient se chercher un peu. On ne suivait pas la saison d'une manière chronologique comme avec Drive to Survive. Hein. C'est la même boîte de production qui fait Breakpoint pour Netflix. Donc, je pense qu'il tourne beaucoup mieux le tennis dans cette série-là. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder jusqu'au couronnement de Coco Gauff au US Open qui couronnait bien cette première partie de la deuxième saison de Breakpoint. Je pense qu'il faut le regarder pour tout fan de tennis, mais pour tout fan de sport en général.
Nico?
Tu vois, Hugues, je suis content que tu soulignes la dernière phrase, là, elle est super importante, je trouve, de sport en général.
Ouais.
Autant le contenu, il est fascinant, il est spectaculaire, il est pertinent. Autant je suis surpris que ça reste à ce point niché. Parce que même si c'est une production de qualité, dans mon entourage et même sur les médias sociaux, si on s'éloigne un peu du monde du tennis, qui sont un public facile, c'est le public cible, je trouve qu'il y a très peu d'extraits ou de segments ou d'allusions qui sont faites à cette série de grande qualité, comme c'est le cas notamment pour la F1 ou le golf. Peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise perception et qui vis dans une chambre d'écho, mais je n'ai pas l'impression que ça a fait un aussi grand bruit que ce que la production attendait, ou du moins ce que le produit mérite.
Ben, c'est sûr que c'est une production qui coûte énormément cher. Alors, elles autres doivent avoir des attentes vraiment spectaculaires.
C'est ça, mais justement, fais-le rouler, fais aller des extraits, assure-toi que les gens en parlent. Il me semble que si on s'éloigne des sphères du tennis, ben, il me semble qu'en dehors des sphères du tennis, ça rejoint très peu de gens. Puis comme je vous dis, peut-être que je me trompe, puis corrigez-moi, là, mais j'ai pas l'impression qu'avec la qualité de la production, puis l'argent, puis les ressources qu'on y a mis, ça séduit autant de gens que ce qu'on pouvait s'attendre.
C'est certain, les gars, que les circuits qui signent avec Box to Box, la maison de production, souhaitent avoir le même impact que Drive to Survive a pu avoir sur la F1. Ça veut dire quoi, ça? C'est un outil marketing important. C'est une plateforme d'engagement, une plateforme de notoriété, une plateforme de recrutement de nouvelles clientèles aussi. Et est-ce que la WTA, qui en a grandement besoin, et l'ATP réussissent vraiment ça avec Breakpoint? Sûrement pas au point qu'ils le souhaiteraient, mais dans une certaine mesure, ça vient démocratiser le tennis aussi, qui souffre encore de cette stigmate de sport très prestigieux, réservé aux élites et tout ça. Donc, moi, je pense que Breakpoint, sans atteindre, je dirais, le succès que Drive to Survive a pu avoir pour la F1, je pense qu'ils font des progrès dans le recrutement d'audiences nouvelles avec ça. J'attends de voir les codes d'écoute de la saison 2. Les résultats semblaient satisfaisants pour toutes les parties prenantes là, sur la saison 1. Donc, je pense que l'objectif est quand même atteint. Et c'est pas pour rien qu'ils ont fait une deuxième saison. Je m'attends à une deuxième partie à la deuxième saison aussi qui devrait être relâchée là, au printemps là, autour de Roland-Garros et Wimbledon. Mais je pense qu'ils doivent continuer sur cette voie-là parce que le tennis se doit de créer des histoires comme ça. Parce que quand on parle autour de nous, des joueurs et joueuses en dehors du top 3, depuis que le Big 3 est arrêté, les gens ont de la difficulté à suivre le tennis en ce moment et Breakpoint a un rôle à jouer dans cette direction-là.
Parce que tu sais, les gars n'ont plus l'idée, c'est pas de convaincre les amateurs comme nous qui sont déjà accrochés. Je pense que c'est de convertir des
néophytes. Tout à fait.
Ultimement, est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon? Parce que nous, en tant qu'amateurs de tennis, puis les auditeurs qui nous écoutent, on sait que Sabalenka est bonne, que Medvedev et Zverev ne s'aiment pas particulièrement. Ça, on le sait déjà. On fait juste en témoigner maintenant. Le but, puis je pense que pour notre sport, c'est la grande mission en ce moment, c'est de convaincre les gens qui, comme tu disais, Hugues, voient le tennis soit de très haut ou soit de très bas. c'est la mission. Puis est-ce qu'on va réussir? Je pense que les codes d'écoute, comme tu l'as dit, là, seront assez révélatrices.
Cela dit, moi, comme téléspectateur, que je sache que quelque chose existe déjà, ça ne m'embête pas. Je sais qu'Anakin Skywalker devient Darth Vader, mais je vais quand même l'écouter parce que je veux... C'est comment tu vas m'amener là qui est important. Fait que moi, tu sais, il y en a plein des histoires que je connais, que je vais écouter des documentaires. Pour moi, ce n'est pas un enjeu. C'est comment tu me le racontes, comment tu vas réussir à me prendre par la main puis à me raconter ton récit sans que je me pose trop de questions. Moi, j'ai beaucoup aimé qu'on est allé plus en profondeur dans la psychologie des joueurs. J'en parlais la semaine passée. J'ai trouvé qu'on a manqué un petit peu de behind the scenes, mais pour moi, c'est pas si un enjeu que ça. J'aime mieux me faire emporter émotivement que plus de behind the scenes, mais pourquoi pas, tu sais, tant qu'à avoir des caméras. Mais je sais à quel point, comme producteur vidéo aussi, ça peut être compliqué. Les critiques que j'en ai vues, pour moi, c'est vraiment pas un enjeu, là. Mais il y a beaucoup de monde qui ont critiqué le montage de Breakpoint. Par exemple, des fois, t'as une shot de service où on est du côté avantage, et puis, ben, finalement, le plan suivant, ben, t'es de l'autre côté où tu vois qu'Eva pour recevoir sur le revers, mais le plan suivant, c'est un coup du coup droit. Moi, j'avoue, ben, franchement, à ma première écoute, je l'ai même pas remarqué, puis je suis un monteur vidéo dans la vie. C'est ça que je fais. J'en produis des trucs, ben, pas à la hauteur de ça, là, mais quand même, j'en produis. Puis c'est le genre d'affaires que je remarque, je l'ai pas remarqué. Alors pour moi, ces critiques-là sont un peu intenses. Ça ne m'a pas empêché d'apprécier le produit. Là, ben franchement, là, moi qui ai une shot de service, je comprends là, que ça peut frapper l'œil, mais que tu commences du côté droit puis tu te retrouves du côté droit.
C'est justement un truc que la clientèle visée par Breakpoint ne remarquera pas et ne s'en formalisera pas. Si tu dis que c'est une balle de match et tu vois que le plan est pris du côté égalité, donc c'est impossible que ce soit une balle de match. Pour monsieur tout le monde, à quelque part, c'est pas si grave que ça, si l'histoire qu'on nous présente est captivante. Mais moi, j'ai hâte de voir quelle suite ils vont en faire. Est-ce que les résultats sont suffisamment élevés pour dire « OK, on a un outil marketing » parce que c'est un investissement considérable. Et il faut que pour Netflix, ça amène des abonnements, d'une part, parce que c'est leur raison d'être. Il faut que du côté de l'ATP, WTA, on sente qu'il y a un effet Netflix au niveau des audiences télé, au niveau du profil d'audience. Est-ce qu'on rajeunit l'audience, par exemple? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui regardent, par exemple? Puis est-ce que ça a ultimement un impact sur les ventes de billets? Ultimement, c'est sur ces indicateurs-là qu'il y aura une décision pour la suite.
Hugues, est-ce que, tu sais, le point que Nico apportait, c'était de dire, ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain déficit de notoriété. On n'en parle pas beaucoup autour de moi, mais est-ce que au Québec, est-ce qu'on n'est pas déjà très, très fan de tennis versus beaucoup d'autres pays et on sent moins cette vague-là qui pourrait venir que dans un autre pays où le tennis est moins prépondérant? Je ne sais pas, je pose la question.
Ben, les gens au Québec, on le sait, aiment beaucoup le tennis. On a des très bons résultats d'écoute au tennis. Et souvent, c'était le tennis qui arrivait après le hockey et le football CFL et NFL au niveau des codes d'écoute, troisième. C'est pour ça que j'avais fait l'acquisition de plusieurs licences à TVA Sport au début des années 2010, notamment tout ce qui n'était pas sur RDS, là, je vais le dire, là, tous les WTA qui s'appellent les Premier Series à l'époque, 1000, qui sont toujours d'ailleurs à TVA Sport maintenant. Donc, il y a un intérêt au Québec pour le tennis. On connaît le tennis, donc on a un profil quand même d'écoute de connaisseurs au Québec par rapport à plusieurs autres pays, effectivement.
En même temps, je dis ça, puis s'il y avait un documentaire sur le Canadien, je suis pas mal sûr que ça poignerait pas mal aussi, même si on est déjà des initiés. Enfin, moi,
ça avait été fait déjà, là, vous vous souvenez, 24-24, exact.
Ouais, exact. J'étais un peu déçu d'avoir été divulgaché sur Star Wars, là, mais à part ça, ton télé est en fin de semaine, mes plans sont gâchés.
Bon, ben écoute, je suis désolé de t'avoir spoilé, comme on dit en termes de télé. Moi, je suis bien satisfait de mon expérience de Breakpoint la deuxième saison, pour être très, très, très transparent. Là. Puis, comme je dis, il y a beaucoup de choses que je remarque étant travaillant là-dedans. Là, puis, vraiment, j'ai réussi à me laisser emporter. Puis, en général, c'est vraiment une bonne idée. Dernier élément de l'épisode, messieurs. On parlait qu'on était fan de Québec, fan de tennis au Québec. Ben, on aura l'occasion de le prouver parce qu'il y aura la Coupe Davis à Montréal. Et là, Hugues, ben, on a appris que Shapovalov, qui devait être le leader de cette équipe-là, s'est finalement retiré. C'est Milos Raonic qui va le remplacer.
Ouais, moi j'avais un doute sur la capacité de Shapovalov de livrer des performances fortes en Coupe Davis. Les préparatifs, je le répète, vont bon train au Stade IGA. Ici, on aura un beau central intérieur d'un peu plus de 2000 places. Tous les billets ou presque sont vendus. On va jouer donc à Salcombe ici au Stade IGA. Donc ça va être vraiment intéressant. Et Milos, Lecoche qui prend la relève, qui se joint maintenant donc à Gabriel Diallo, Alexis Galarneau et Vacek Pospisil pour le coach capitaine Frank Dantsevic. On joue, je le répète, contre la République de Corée, Corée du Sud. Victoire qui devrait être prenable pour le Canada. Ouais. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Ça a lieu le 2 et 3 février. Mais on aura des joueurs locaux qui vont vouloir très bien faire. Je m'attends à ce que et Alexis et Gabriel voient du temps de terrain. Je ne sais pas encore s'ils vont être en simple ou en double ou les deux, mais tu auras des joueurs extrêmement motivés qui vont jouer sur les terrains où ils ont grandi et appris leur art ici au Stade des Gerbes.
Ouais, moi, je suis pas mal à l'aise avec Alexis et Gabriel, surtout comment plus. Ils ont fait en Coupe Davis l'année passée. Là. Je pense que c'est très prenable. Nico, commentaire sur ce retrait de Denis Chapovalov, surpris?
Ben, les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Une chance que c'est la Corée quand même. Même si on aime beaucoup l'équipe canadienne, on a un bon tirage. Là, parce que la question que je me pose, c'est qui sera le grand leader? On le sait, dans ce genre de compétition, même si c'est un tournoi par équipe, ça prend quelqu'un qui prend le lead, qui devient le capitaine non officiel.
Milos peut être ce leader-là, mais tu parles en termes de résultats sur le terrain.
Ben, un peu tout, tu sais, dans la mesure où à la Coupe Billie Jean King, ça a été Leila. Ensuite, bon, précédemment à la Coupe Davis, c'était Félix. Ouais. Là, qui va prendre les rênes? Est-ce que Miloš a assez... Ben oui, il a certainement le bagage, mais le niveau présentement pour assurer vraiment d'être la tête d'affiche, le visage de cette équipe-là qui va pouvoir traîner sur ses épaules?
Ouais.
Est-ce que c'est Vacek? Je ne penserais pas. Alexis et Gabriel ont-ils assez d'expérience? Bon, l'équipe, je pense qu'elle est bonne là, compte tenu du contexte qu'on va affronter la Corée, mais reste que je trouve qu'on est dans les circonstances, on est chanceux. Parce que oui, là, c'est sympathique, là, Miloš qui revient au jeu, mais ça demeure quand même fragile, je trouve.
Ouais, je pense qu'on va quand même avoir un bon spectacle. Et comme tu dis, moi, je suis contente qu'on puisse voir les Québécois en action à la maison. Et Miloš Raonic est aussi, d'une certaine manière, un Québécois d'adoption, puisqu'il était de cette génération-là de joueurs qui a fait partie du Centre national. Il a, lui aussi, vécu à Montréal. Et Montréal, c'est la maison pour lui. Moi, j'ai bien hâte de voir ces joueurs-là en action à Montréal. D'ailleurs, sur la ligne, il sera. On sera peut-être toute l'équipe. Peut-être, en tout cas, il y aura sûrement des représentants de l'équipe durant tout le tournoi. Ça, ouais. C'est certain. Et puis, ça va nous faire plaisir de couvrir cette prestigieuse compétition-là pour vous. Et puis, on sera sur place. Ouais. Messieurs, c'est ce qui complète l'épisode. Peut-être avant de compléter l'épisode, juste rappeler qu'il y a des billets disponibles. Vous pouvez en acheter sur le site de Tennis Canada, si je ne me trompe pas.
Oui, Ticketmaster, mais faites vite. Je vous l'ai dit, on va jouer. Ça sera sale compte. Il va rester quelques billets, mais tout va être vendu là, sous peu.
C'est ce qui complète l'épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. En mon nom, Alexandre Gébal. Hugues Léger, je te remercie. Nicolas Richard, je te remercie. Et comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.